Voilà, j'ai essayé de faire ce que ce qu'on s'était promis de faire, c'est-à-dire au fond tout simplement une approche un petit peu réflexive du droit transnational. Et il faut tout simplement rappeler, on est un petit peu obligé, l'origine enracinée justement dans la pratique juridique de ce droit transnational. C'est le livre de Philip Jessop, qui naît de sa surprise de sa pratique de juge, qui nous dit « Le droit transnational désigne les règles applicables, publiques ou privées, concrètement à toute situation juridique qui dépasse les seules frontières d'un État. » Bon. Alors, 2016, je pars du même point de vue, surprise de la pratique. De nouveaux acteurs émergent, mais je fais le lien entre les règles transnationales et les acteurs transnationaux. Comment ? Par des pratiques de choix que ces acteurs vont réaliser et qui vont composer des espaces normatifs par ces choix. Alors, ça permet de faire, au fond, une petite hypothèse sur quelques-uns des points communs que nous aurions, c'est que ces choix, et puis aussi ce que tu as évoqué à de nombreuses reprises, les comparaisons de règles qui sont nécessaires aux choix, ce qui va être nécessaire pour construire les espaces, et donc la circulation du droit, ça serait peut-être un point commun entre beaucoup de travaux. Donc on va travailler cette notion, on va travailler comme des juristes. Donc on va essayer de faire une analyse d'un texte, le texte sur le droit transnational. Donc je vous donne le texte du droit transnational, on va le découper en 9 citations. Bon, bien sûr, ce n'est pas possible, donc comment on va faire? On va utiliser des images. Des images, des percepts, hein, d'images, de concepts, pour que ça soit plus réduit, qu'on fasse ça en quelques minutes. Et donc, on va être juriste, mais pas seulement juriste. On commence par la première citation. Le droit transnational analyse les pratiques, on y est, les pratiques des acteurs du droit, que sont les États, mais aussi les entreprises transnationales, les ONG, etc. Alors, pour illustrer quelques images, c'est une image. Ces images vont être exemplaires de la déterritorialisation, mais de la pensée qui est nécessaire à la recherche sur le droit déterritorialisé. Première image, hein, c'est janvier 2018. Il y a une colonne qui envahit le Tchad, hein, du Soudan. Bon, il y a des combats très forts. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Des opposants politiques sont enlevés, notamment, vous voyez, Ibni Omar Mahamat Saleh. Alors, je suis nommé par l'Union européenne, la France, etc., pour organiser une commission d'enquête internationale. Problème, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de précédent utilisable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire du pick and choose. Je vais prendre, par exemple, les sources de le règlement intérieur de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits, mais je prends aussi le règlement de la Chambre de commerce internationale sur l'arbitrage commercial privé. Tout ça pour faire un truc de droit international public. Alors, je crois que là, ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc pour moi parce que ça m'a obligé à ce détour par le droit public, à m'interroger sur mes propres objets dont j'étais familier, les objets par exemple, du droit international privé, vous voyez là, un schéma de la loi choisie à la CCI le plus souvent. C'est donc cette idée de loi choisie, déterritorialisée, qui circule, et il a fallu que je le regarde, au fond, d'une façon tout à fait nouvelle. On voit là cette idée de décentrement de soi-même. Hein. C'est ce qui permet ce compréhension du décentrement du monde. Alors, décentrement intellectuel pour Jessop, hein, décentrement des disciplines pour moi, décentrement géographique, l'Afrique, l'Asie, c'est ce que Deleuze appelle la déterritorialisation de la pensée. Je cite, « Se déterritorialiser, c'est quitter une habitude, une sédentarité, échapper à des processus de subjectivation précis. » Alors, petite image d'une très jolie femme d'Henri Matisse qu'on se trouve dans le livre de Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit. Et Merleau-Ponty y voit en fait le bras de l'artiste, le bras au fond de Matisse. Et je cite, il écrit « C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. Alors, bon, évidemment, je ne suis pas véritablement peintre, le juriste n'est pas un peintre, mais voilà le genre de peinture que moi, juriste, je fais lorsque je fais un grand contrat extractif. Je fais ces dessins pour m'y retrouver, je fais des lignes qui sont des techniques de choix, choix de la loi par exemple, incorporation. Je fais des ronds pour bien me souvenir quel type de choix de règles, donc les ronds pour les règles, j'ai choisi. Et voilà, on y est, c'est-à-dire que ce droit transnational, c'est ce décentrement du regard de la règle de droit, image traditionnelle du droit, aux techniques des juristes, c'est-à-dire le bras de l'artiste. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'essaie de faire, montrer la main des juristes qui construisent les ensembles normatifs. Essayer d'être un peu réflexif. Citation numéro 2, le droit permet de rendre intelligible le droit qui s'applique à des personnes, des biens, des actes ou des faits juridiques qui traversent les frontières nationales. Petite image, puisque je rentre du Sénégal, ce sont les 12 concessions pétrolières accordées par l'État du Sénégal à des entreprises extractives. Alors, j'ai fait la première revue critique de ces contrats, tableau analytique comparé. On va prendre juste un exemple, les clauses sur l'identification des parties. Plus de la moitié de nos sociétés sont incorporées dans des paradis fiscaux. Ce qui pose un problème, parce que ce sont justement les contrats offshore et offshore profonds où il faut une surface financière énorme pour faire face, par exemple, à de la pollution. Or, on ignore totalement la surface financière et l'identité des propriétaires. Ce qui veut dire que l'incorporation, clause de partie, qu'on présente simplement comme une technique de choix de la société, l'ex societatis, c'est bien plus que ça. C'est en fait un tax shopping, un liability shopping, un criminality shopping, bien sûr, un asset freezing, mystery shopping, freedom shopping, treaty shopping, etc. Ce qui veut dire que, en un seul schéma, vous voyez les schémas que je construis pour mes contrats, on s'aperçoit qu'une seule technique, la technique du corporate, permet des choix de normes qui appartiennent à presque toutes les soi-disant branches du droit qui sont normalement séparés par la doctrine. Alors, on a donc une méthode, suspens de la théorie, examen des pratiques, des stratégies des acteurs. C'est, on l'a rappelé, effectivement, les méthodes du Global Turn, cette critique épistémologique du nationalisme méthodologique. Bon, c'est plus, au fond, les règles de droit qui m'intéressent véritablement. C'est les techniques d'application effective de l'effectivité de la règle. C'est ce schéma représente les règles effectives. On a donc un basculement de point de vue, ça a été évoqué plusieurs fois, qui caractérise ce droit transnational, du droit créé par les États vers un droit mobilisé par des acteurs qui créent des espaces de normes, hybrid legal space, dit-on, qui sont applicables à leurs relations. Alors, c'est une approche qui permet au fond une unification des différentes branches du droit international. C'est quand même assez important, il rassemble public, privé, pénal. Mais il permet aussi, ce droit transnational, de retravailler chacune des branches et de participer à leur redéfinition avec cette approche très concrète de l'effectivité. Alors, on peut reprendre par exemple l'exemple du droit privé transnational. Il fait disparaître, citation 3, la souveraineté de l'État en permettant aux personnes privées de choisir la loi nationale applicable à leur rapport en se localisant juridiquement sans lien avec leur localisation réelle. Alors, petit tableau encore de mes contrats africains, sénégalais, loi, vous voyez aussi juge et choix d'ordre public. On voit bien des techniques de choix de la loi, law shopping, mystery shopping. Et ces techniques, elles bannent tout simplement aux personnes privées un pouvoir, je suis désolé de l'affirmer, c'est banal, mais de transformer le rapport traditionnel entre l'État et ses sujets, entre la loi et les personnes privées. Ce qui était un rapport de souveraineté, un rapport d'assujettissement, devient, bah, il y a un renversement historique quand même assez fort, un rapport d'affinité et puis surtout un rapport d'évitement, de choix. Alors, ce basculement, c'est important pour le droit international privé. C'est un droit qui n'est plus stato-centré, incarné par la figure du juge, qu'avait construit le droit international privé, cette figure du juge. C'est un droit qui est décentré et qui est décentré vers les acteurs, les personnes privées ou publiques, hein, qui choisissent les droits nationaux et le droit international applicable à ces relations. Alors, c'est un constat qui est fait aujourd'hui. Hein, quand vous lisez Horacia Muart et Dominique Bureau, on a une redéfinition du DIP qui est, je cite, le régime des rapports que les acteurs privés peuvent nouer par-delà les rapports étatiques, par-delà les frontières étatiques. Hein. Ça, c'est important quand même, parce que c'est exactement la définition de Jessop. Alors, moi, j'ai simplement proposé de redéfinir, aller plus loin, ce droit privé en droit privé non plus international, mais transnational. Alors, l'idée, c'est très simple. Hein, traditionnellement, on dit que ce sont les juges qui vont, étatiques, qui vont localiser les rapports juridiques transnationaux factuels. Pourquoi ? Pour les rattacher à un ordre juridique. Bah, c'est la théorie de Batiffol, la localisation objective du DIP. Bon. Bah, aujourd'hui, c'est l'exactement inverse. C'est-à-dire que ce sont les personnes privées qui se localisent juridiquement pour choisir et pour imposer aux juges les ordres nationaux sous lesquels ils souhaitent inscrire leurs relations juridiques. Alors, quand on regarde concrètement, ça ressemble effectivement au montage de Jean Silvestre. C'est une recherche des règles qui sont potentiellement applicables, une comparaison des effets concrets du choix de ces différentes règles. On choisit l'effet concret qui vous convient, et grâce à nos techniques, on choisit cette règle. Ces techniques, forum shopping, law shopping, mais toutes les techniques qu'on a évoquées, par exemple, ceux qui viennent du corporate, celles qui viennent du finance, la corporate finance, qui sont l'éventail, la pratique réelle de ce monde transnational. Alors, si on bascule, il faut redéfinir. Donc, j'ai essayé de redéfinir les règles de conflit, qui sont plutôt des règles de localisation du DIP. Et j'ai vu qu'il y avait des localisations contractuelles. Il y a une quantité de techniques qui sont utilisées. C'est clause de fort, de loi applicable, d'incorporation, de procédure, etc. Tout ça, c'est les ressources, tout simplement, du principe d'autonomie qui est devenu au cœur du DIP. On peut choisir presque tout. Mais il y a aussi des localisations physiques. Et ça, c'est très important. C'est tout ce qui est incorporation, on l'a vu, filiale, délocalisation, sous-traitance, joint venture, accord de coopération, distribution, savoir-faire. De quoi s'agit-il là ? Eh bien, de se déplacer physiquement pour appliquer le droit dont la règle est l'application territoriale, tout simplement. Et puis, il y a une troisième au fond, localisation, c'est la localisation hiérarchique dont parle Jean Silvestre. C'est-à-dire qu'il s'agit de choisir une hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'on choisit tel ordre juridique ou tel ordre juridique international, comme l'arbitrage d'investissement, pour bénéficier des rapports entre les normes de cette hiérarchie des normes. Ça, c'est une technique de base, hein, par exemple, de l'arbitrage ou des contrats internationaux. Donc on voit bien l'idée que... On a des techniques qui permettent de créer des espaces de normes, mais qui permettent aussi de contrôler l'application de ces normes par les juges. Hein, donc il y a quelque chose de très fort. Vous voyez, cette notion d'espace normatif, ça peut être aussi quelque chose de simplement descriptif, ce n'est pas normatif. Hein. C'est descriptif, c'est une méta-règle de conflit de normes qui donne cohérence à ces différentes techniques de choix. Alors, on pourrait passer au droit transnational des affaires, parce que c'est celui qui fâche en général, qui est un droit des marchands, d'accord, mais en fait, quand on a une analyse un petit peu fine des techniques, qui reste profondément lié aux États, qui en assurent l'effectivité. Alors, on va reprendre nos contrats sénégalais, tous identiques, tiens donc. Tous ont une même clause de choix de la loi au Sénégal. Tous ont une clause de choix de résolution des litiges d'arbitrage, CIRDI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question de la loi applicable est résolue en fait par l'article 42 de la Convention CIRDIC, qui nous dit quoi ? Elle nous dit, respect de la loi choisie par les parties, Sénégal, ah oui, mais aussi du droit international. Alors là, c'est assez amusant, parce que la jurisprudence arbitrale nous dit quoi ? Elle dit, eh bien, le droit international est là pour combler les lacunes du droit national ou corriger le résultat. Corriger le résultat, c'est le rôle correcteur du droit international, ce qui veut dire que concrètement, qu'est-ce qui va rester ? Mais absolument rien de votre loi sénégalaise. Qu'est-ce qui va être appliqué par le juge arbitre d'investissement ? Tout simplement certains principes qu'il va découvrir en appliquant une règle coutumière qu'il a découvert lui-même. C'est un texte sans portée normative de la Commission de droit international des Nations Unies. Sur quoi ? Sur la responsabilité qui n'a rien à voir, celle des États, hein, entre États. Donc on a bien la création, effectivement, de principes. Alors, il y a une fonction, bien évidemment, à cette création. On a assez choix. Hein, on voit bien pourquoi ces choix ont été faits. Comment les expliquer ? C'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le cas. On peut l'expliquer avec la vieille théorie de Bertold Goldman, de la lex mercatoria. Ça serait donc un ordre autonome avec un juge arbitre, des règles créées par les marchands. Ce qui est plus intéressant quand on regarde le cas, c'est que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on appelle la new lex mercatoria. Et cette new lex mercatoria, elle intègre un certain nombre de règles de droit international, par exemple les droits de l'homme, dans ces principes créés par cette société internationale. C'est un mouvement de fond qui apparaît, c'est par des clauses de choix de la loi, des global lawyers, qui vont de plus en plus désigner ce qu'on appelait avant de la soft law, d'entreprise, par exemple des chartes, qui vont désigner aussi des actes internationaux à valeur non normative, comme les pactes, Global Compact, etc., comme loi du contrat. Sauf que quand vous regardez cette soft law, en fait, c'est rien du tout, ces trucs. Cette soft law, c'est aussi elle-même un renvoi. C'est un renvoi à quoi ? Au droit international public, dur. Hein ? C'est le traité PIDESC, c'est les directives de l'OIT qui sont en fait intégrées. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par ces mécanismes de choix de la loi, dans la soft law, est rendu obligatoire à des personnes privées, les entreprises, des règles de droit international qui, normalement, ne s'appliquent qu'aux États. Alors, c'est très intéressant parce que on a quelque chose là comme un déplacement des questions techniques vers des questions politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'interprétation univoque de ce droit international des affaires. Vous voyez que là, il se construit pour pallier les défauts de régulation de l'État. Hein, c'est l'interprétation qu'en donne Olivier de Sutter et qui est, au fond, assez bonne. Donc on voit bien qu'il y a un droit transnational des affaires qui émerge, qui n'a plus l'État ou le territoire comme critère de formation et d'application, mais qui est très loin d'être un droit des marchands, comme l'exemple nous le montre, l'exemple sénégalais. C'est un droit qui est indissolublement lié aux droits des États, qui ont signé la Convention de Washington, dont les normes internationales sont choisies par les parties et dont les États, exéquatures, assurent l'effectivité. Donc on a quelque chose, quand on regarde concrètement les montages, qui permet vraiment d'abandonner plein des fictions de ce que mademoiselle appelait la doctrine. Alors, là encore, ces techniques du droit commercial ressemblent beaucoup à ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on a quelque chose comme des choix de règles internationales faites par des personnes privées, mais de façon très très large. Qu'est-ce qui a prévalu à ces montages ? Ben, on a essayé de voir les différentes hypothèses, on a été voir les conséquences concrètes des différentes hypothèses, et puis bien évidemment, on a choisi celle qui convenait. Donc on a un mode de raisonnement extrêmement simple, extrêmement concret dans la construction de ces choix. C'est exactement ce qu'Emmanuel Gaillard rappelle, hein, qui souhaitait être là. C'est-à-dire que le droit transnational, ce qu'il appelle la lex mercatoria, ce n'est pas des règles de droit, c'est une méthode. C'est une méthode de choix. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est l'abandon des méthodes conflictualistes du juge étatique et l'adoption par toute une communauté mondiale de lawyers de méthodes qui sont celles du droit transnational, celles que on vient de décrire. Cinquième citation, On passe au droit pénal, transnational qui s'applique lui aussi en dehors du cadre territorial national traditionnel du droit pénal. Il suffit de reprendre nos exemples de tout à l'heure. Exemple de tout à l'heure, on voit bien que le liability shopping, la criminality shopping, c'est-à-dire les montages corporate qui permettent à des personnes privées de disparaître au fond de ces montages et d'échapper à la responsabilité, sont, on l'a vu, 7 sur 12 des contrats, la pratique massive de ce monde transnational. Ce qui veut dire que ce droit pénal qui était vu comme territorial par la doctrine, il est très peu, est en fait très, très extraterritorial. D'abord, pourquoi ? Parce qu'on voit bien, il y a l'extraterritorialité dans le choix de droit pénal. Ce qu'on appelle la criminality shopping, c'est véritablement l'extraterritorialité du droit pénal. Quand, par exemple, là, j'incorpore une filiale dans un paradis fiscal et que entre la société mère et cette filiale qui va signer le contrat, je vais mettre un trust, qu'est-ce qui se passe ? Je joue avec le principe de la personnalité des poursuites et des peines pour échapper totalement à quoi ? À la responsabilité pénale et à la responsabilité civile. Ce qui veut dire qu'il y a eu, et c'est ça qui est intéressant aussi, une réaction des systèmes juridiques nationaux et internationaux, et émerge aujourd'hui un droit pénal à effet extraterritorial qui est assez important. Alors il y a des fondements très divers, c'est la compétence universelle, la personnalité active, passive, la complicité par instigation. Aujourd'hui, le plus intéressant, c'est les techniques de due diligence, les devoirs de vigilance. Et dans tous les cas, il s'agit de permettre à un État de réprimer des crimes et des délits commis en dehors de son territoire. C'est très important. Donc on a une compétence pénale extraterritoriale, subsidiaire, certes, de la compétence territoriale de l'État où est localisé le délit. On peut le qualifier assez facilement de transnational, ce droit pénal, un nouveau droit pénal transnational. Il a quelque chose de commun, c'est qu'en règle générale, il cherche à... c'est ce qui est négocié en ce moment à Genève, il cherche à incriminer la société mère en posant une obligation de vigilance des actions de ses co-contractants ou de ses filiales à l'étranger, obligation extraterritoriale de la société mère, mais localisation personnelle de la faute. Ça ressemble fortement à une responsabilité en raison du pouvoir, dirait Sutherland, qui a écrit sur la criminalité d'entreprise. C'est un mouvement de fond de ce droit transnational. On va prendre le dernier champ, qui est quand même peut-être le plus important, le droit public transnational, citation 6, qui naît aujourd'hui et qui déconstruit la séparation entre droit national et international, puisqu'il y a des nouveaux acteurs qui contribuent à l'émergence d'un droit déterritorialisé. Puisqu'on est à Genève, on va prendre l'exemple de Genève, puisqu'il s'y négocie depuis 3 ans un traité international où on voit des acteurs, pour être clair, qui tentent de créer une responsabilité personnelle des sociétés mères pour des défauts de vigilance sur des actions de ses co-contractants ou de ses filiales. Alors, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'il est prévu normalement que ce traité ait des effets directs, c'est-à-dire que s'applique verticalement sans que les États aient à transposer le traité, clarté de la règle, mais aussi des effets directs horizontaux, c'est-à-dire qu'une personne privée pourra demander l'application devant un juge de ce traité international contre une autre personne privée. On a quelque chose d'extrêmement nouveau dans ce droit international qui, dans la conception classique, je vous le rappelle quand même, fait que les individus, les personnes privées, ne sont pas des sujets de droit international public, n'ont pas de capacité juridique internationale, pas de personnalité juridique internationale. Je vous rappelle que dans la fiction du droit public, les individus ne sont que les bénéficiaires du droit international si les États acceptent d'introduire ce droit international dans leur droit national. Alors, on a bien quelque chose de vraiment, vraiment tout à fait nouveau, là. C'est-à-dire que on a des individus qui, parfois, peuvent saisir les États eux-mêmes sur le fondement de la compétence universelle. On a des personnes privées qui peuvent saisir des cours régionales. On a des victimes qui ne peuvent encore qu'informer le procureur de la CPI, mais on a des entreprises, on l'a vu avec le Sénégal, qui peuvent saisir un juge arbitre pour faire condamner un État. Voilà, on a quelque chose de complètement nouveau dans ce droit transnational, et sa nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes privées qui peuvent, au fond, en demander l'application devant, par exemple, des juridictions de droit interne d'un État. Et là, c'est ce que, tout à fait étonnant, c'est ce que Michel Viralini appelle quand même la pénétration, le droit international pénètre même dans le sanctuaire de la souveraineté. Donc la question des branches, elle est complètement redéfinie, elle est explosée par ces nouvelles pratiques. Et ça, c'est quelque chose que ce regard sur les pratiques nous permet de faire redéfinir même le droit international public. Cette révolution silencieuse du droit international public, je cite Olivier de Sutter encore, eh bien c'est Dominique Carreau qui, je crois, l'a formulé la plus magnifiquement. Il suggère tout simplement d'abandonner l'expression de droit international. Il nous dit, pour notre part, nous adopterons la conception du professeur et ancien juge américain à la Cour internationale de justice, Jessup, qui caractérise le droit international contemporain comme étant, je cite, le droit transnational. Voilà ce que peut faire cette approche par les pratiques. Citation 7, le droit transnational a aussi pour intérêt de présenter les méthodes des acteurs qui mobilisent les règles de droit par ces processus transnationaux. La pratique des professionnels du droit à l'œuvre, par exemple, dans les contrats ou l'arbitrage international, consiste en des techniques de choix des lois, forum shopping, law shopping, treaty shopping. Alors, on a un tout petit peu oublié, mais quand même, ce droit transnational, il permet aussi tout simplement de renouveler la doctrine. C'est-à-dire qu'on va peut-être arrêter de faire une simple systématisation des règles de droit applicables, mais on peut peut-être esquisser une systématisation des méthodes de choix du droit dans cet espace où ce qui importe, c'est plus le choix que la source du droit. Alors, on revient à notre schéma et on voit bien que le schéma des grands contrats extractifs, des grands contrats pétroliers ici, ils illustrent parfaitement l'affirmation d'Emmanuel Gaillard. Quand il nous dit que le droit transnational résulte, je cite, d'une méthode et non d'une liste, il suffit de regarder un schéma pour voir que cette liste, c'est la liste des règles qui sont convoquées, choisies, mobilisées par les acteurs. Alors, c'est quelque chose qui est assez fort dans la doctrine, cette évolution. Mais comment en rendre compte Comment rendre compte de ces techniques? C'est pas si simple parce que je veux bien que l'idée est assez admise, que ce soit dans les law firms ou à la Harvard Law School, que ce qui est important, c'est les maîtrises des techniques plutôt que la maîtrise du droit. C'est affirmé très clairement un peu partout. Mais c'est vrai aussi que tout le monde affirme la même chose. On apprend ces techniques non pas à l'université, mais où? Justement dans les law firms. Ce qui pose un petit problème, c'est qu'il va falloir, au fond, une doctrine de semi-praticien, pour reprendre l'expression de Philippe Gestase, pour pouvoir exposer ce qui, pour l'instant, n'est caché, et dimension démocratique, ce qui rend visible ce qui est caché, me semble, là, pour le coup, quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qu'on va rendre visible? C'est, je crois, cette approche stratégique du droit qui vise à comparer, à choisir, à comparer les effets concrets et les possibilités aussi immenses de choix. Ça me semble assez intéressant. Et là, on pourra décrire ce qu'on a déjà décrit. On a rencontré, par exemple, le forum shopping pénal. On a rencontré la choix de hiérarchie normative avec notre arbitrage d'investissement au Sénégal, etc. etc. Alors, citation 8, les théoriciens épistémologues du droit transnational élaborent la théorie de l'espace normatif qui renverse la pyramide normative kelsenienne, les acteurs réalisant par leur légale stratégie des choix de juridiction, de loi, mais aussi d'ordre public et de hiérarchie normative. Désolé, la phrase est un peu indigeste. Mais au fond, la phrase est assez simple. On a... si on fait une revue, pour le coup, doctrinale de toute la littérature, il y a un courant assez fort, c'est-à-dire que même si certains sont encore du côté du New Legal Pluralism, qui postule plusieurs ordres juridiques, donc quand même des ordres juridiques, il y a un courant très très fort, je crois, de théories qui construisent le droit autrement. Hein, c'est Per Zumbansen qui devait être là. Qui est là aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils aient véritablement besoin de l'ordre juridique transnational, global, d'une constitution mondiale, etc. Et c'est plutôt sur les façons de mobiliser, à la Emmanuel Gaillard, les méthodes, les façons dont le droit est bougé, que quelque chose évoque, et cette notion d'espace normatif est assez généralisée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement essayé de poursuivre ce travail collectif et puis de redéfinir, de trouver une définition de cet espace normatif. Et j'ai trouvé quatre éléments. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a tous là, dans ces espaces normatifs, on les a évoqués, ces éléments, successivement ou collectivement. Et je crois que le premier élément, c'est un lieu, c'est la notion de site. C'est-à-dire le lieu qui n'est pas géographique, un lieu humain, c'est ce que Benoît Friedman appelle aussi les nouveaux points de contrôle. Hein, ça peut être mes grands contrats, ça peut être les agences de notation financière. Et c'est là aussi que cette idée d'anthropologie de nouveaux objets me semble intéressante avec la notion de site. On attire beaucoup de choses. C'est simplement ces lieux humains où on va faire ces arrangements de règles. Après, on a cette notion de technique. Alors, on les a vus, hein, ces techniques par lesquelles les acteurs choisissent des règles de droit, on n'y revient pas. Ce qui me semble plus intéressant, c'est les règles de droit, parce que ces règles de droit choisies par les parties, elles sont des règles privées, mais beaucoup de règles publiques ou internationales, et ça peut même être des règles d'ordre public ou des hiérarchies de normes qui peuvent être choisies. Alors, enfin, et ça, il a fallu que je le rajoute, il y a les représentations, ce que certains appellent la culture, par exemple. C'est quoi? C'est des discours qui vont encadrer l'action. Des discours des acteurs, ceux qui font les choix, sur nos pratiques de choix, hein, nos trucs qu'on échange comme ça, sur les règles qu'on va choisir et qui vont orienter nos choix. Hein. On sait bien, entre arbitragistes, que choisir comme lieu d'arbitration tel ou tel pays, ça a des conséquences. Bon, c'est un exemple. Ce concept d'espace normatif, il appartient aussi à la philosophie analytique, à la philosophie de l'esprit, la philosophie néo-pragmatiste. Et par exemple, Szélars utilise, c'est assez intéressant, l'idée d'espace normatif comme espace de raison, c'est-à-dire espace, je cite, « croyances, idées et normes qui construisent le monde social d'une société donnée bon. ». Ce n'est pas très nouveau pour nous, les Européens, qui pensons les représentations depuis 50 ans dans les sciences sociales. En tout cas, quand vous reprenez ces sites, ces techniques de choix, ces règles choisies et ces représentations qui encadrent, on s'aperçoit de choses intéressantes. On voit, par exemple, qu'on est très loin d'un droit sans l'État, qui serait né de la puissance des marchés. C'est l'analyse de Tubner qui est, je crois, très largement datée. Loin du déclin de l'État, la loi elle est très très présente, mais attention, c'est une loi déterritorialisée, c'est une loi simplifiée, tu l'évoquais dans l'arbitrage, c'est une autre loi, c'est une loi choisie par les acteurs. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est effectivement un ordre juridique renversé, parce qu'au fondement de ces ordres, il n'y a pas une nécessité logique, hein, que tout ça marche, il y a simplement des pratiques de personnes privées qui choisissent les règles de droit. Leur rapport entre règles de droit, ça veut dire quoi? Qu'ils se font tout simplement les constituants de ce monde transnational en décidant de donner force ou non aux droits étatiques, aux règles internationales. Mais en fait, ces constituants, ou plutôt ces acteurs privés, ils renversent aussi la représentation de l'école de Dijon, le rhinocéros de la Lex Mercatoria. Vous savez, le rhinocéros, c'est la Lex Mercatoria qui bouscule tous les petits triangles d'ordre normatif nationaux. Ça ressemble plus un petit peu au globe et aux sphères de Latour et Sloterdijk, où on voit l'ensemble des liens qui se font et qui donnent une certaine solidité quand même à cet ensemble de règles. Alors, est-ce qu'on peut, pour terminer, prendre un tout petit peu de recul et essayer d'apprécier, comme on l'a fait tout à l'heure, au fond, la signification de ces espaces normatifs, de ce droit transnational? Alors, on l'a dit, pour certains, c'est un droit, c'est une nouvelle ontologie du droit, un droit avec sans fondement ou d'autres fondements, des fondements humains, et non pas rationnels, logiques, nécessaires. Je pense qu'il y a une autre possibilité, c'est d'y voir, effectivement, un tournant épistémologique. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est un nouveau point de vue, et pas plus que cela. Et pour nous aider à comprendre cela, je crois que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le diagramme de Minkowski, qui, assez tôt, a permis tout simplement de comprendre, de visualiser ce qu'a été cette rupture épistémologique majeure hein, qui a constitué la relativité générale d'Einstein. Relatif à quoi ? À la position dans l'espace et dans le temps d'un sujet. Ça, Galilée nous l'affirmait déjà. La nouveauté de cette relativité générale d'Einstein en 1904, c'est que l'espace n'est plus un espace absolu, l'absolu de Newton, où, au fond, toutes les règles, toutes les lois de la physique étaient identiques partout. Pour Einstein, c'est un espace qui est pensé en mouvement et où les lois physiques ne sont plus immuables, mais elles sont elles-mêmes différentes selon ce mouvement. Alors, est-ce que, au fond, ce n'est pas un tout petit peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, cet nouvel regard, penser les global law ou le droit transnational, peu importe, dans l'espace du loi, l'espace du droit, avec des lois qui sont différentes, effectivement, selon les lieux où se localisent les sujets. C'est juste un outil pour, au fond, mieux comprendre.